Bonjour à tous, c'est une association certes peu connue, mais assez influente et désormais dans le collimateur de la Cour des comptes. Les magistrats reprochent à SOS Éducation de s'intéresser plus à votre argent qu'à vos enfants. Bonjour Benoît Colomba.
Bonjour Jacques.
Vous allez donc nous expliquer ce qu'est SOS Éducation et pour cela vous avez enquêté sur son fondateur, Vincent Larman, un homme qui s'est installé en Suisse, qui ne croit pas à l'efficacité des médicaments et qui gère ses entreprises avec des méthodes, on va le voir, assez surprenante.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Évitons que ces devoirs ne deviennent un véritable cauchemar. Comment aider nos enfants, nos petits-enfants? Comment les aider durablement, sereinement et bien sûr efficacement?
Voilà, ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait d'une conférence sur l'aide aux devoirs organisée en janvier dernier par l'association SOS Éducation. Alors sur le papier, ça paraît très bien, hein, aider nos petits-enfants qui pourraient être contre. Seulement la Cour des comptes, elle, a estimé cette semaine que cette association avait parfois des méthodes discutables. Alors on va voir dans le détail pourquoi avec vous, Benoît Colomba. Mais d'abord, expliquez-nous, SOS Éducation, c'est quoi précisément?
Alors c'est une association qui a été créée en 2001. Elle se présente comme libre et indépendante et dit se battre pour que l'école transmette les savoirs fondamentaux et le goût de l'excellence. SOS Éducation revendique 50 000 adhérents, parents d'élèves et professeurs, ce qui n'est pas rien. Et elle s'est notamment fait connaître en utilisant des méthodes assez inhabituelles. Le journaliste Emmanuel Davidenkoff raconte comment on lui a mis la puce à l'oreille.
Des enseignants de toute la France m'envoient soit des photocopies, soit des exemplaires de courriers qu'ils ont reçus à leur domicile, venant de cette structure qui s'appelle SOS Éducation, et avec derrière une prose très catastrophiste, très, on dirait, collapsologue aujourd'hui sur l'éducation nationale, sur l'état de l'école. L'école va mourir, nos enfants sont en train de se faire assassiner, etc., etc. Ils le reçoivent absolument à leur domicile, et ils sont évidemment extrêmement déroutés, et donc la première question qui se pose et que se posent ces enseignants, c'est comment ils ont eu mon adresse.
Et comment ils ont eu ces adresses, Benoît, on le sait?
Alors ce qu'on sait, c'est que l'association loue des fichiers à des prestataires spécialisés dans le courtage d'adresses.
Et donc ces adresses permettent d'envoyer des courriers aux parents?
Alors oui, c'est un peu la marque de fabrique de SOS Éducation. L'association lance régulièrement des pétitions ou des référendums sur des grands sujets qui a priori font réagir tout le monde, comme la violence, le portable à l'école ou l'illettrisme, avec à chaque fois des appels aux dons, 3 millions d'euros récolté en 2008, 700 000 aujourd'hui.
Et comment on fait pour récolter autant d'argent?
Eh bien, on joue sur la corde sensible des parents et des enseignants avec quelques idées derrière la tête, constate le secrétaire général du Syndicat national des personnels d'inspection de la FSU, Paul Devin.
Ils ont un discours qui se cache derrière une apparence de modernité, une apparence d'attention aux problèmes des enseignants, mais qui en fait, très clairement, se révèle très très vite porter une idéologie très très conservatrice, voire réactionnaire.
Une idéologie conservatrice, voire réactionnaire, mais ça veut dire quoi précisément?
Eh bien pour Emmanuel Davidenkoff, qui a longtemps suivi les questions d'éducation, c'est notamment l'idée que la famille doit prévaloir sur le rôle de l'État.
Il y a l'idée que l'État ne fait pas correctement son travail, qu'il manipule les enfants, qu'il les endoctrine, en France qu'il n'est même pas capable de leur apprendre à lire. Et puis les solutions qu'on propose, qui sont des solutions ultralibérales, qui sont de dire il faut que je puisse scolariser mon enfant où je veux. Vous trouvez aussi un lien avec ce qu'on appelle le chèque éducation, qui n'existe pas en France, mais qui est cette idée que au lieu de financer les écoles, les collèges et lycées pour qu'ils éduquent nos enfants, on nous donne à nous parents une certaine somme d'argent que nous décidons, nous, d'attribuer à tel ou tel établissement afin qu'il éduque nos enfants.
Ouais, donc cette association se méfie de l'État, Benoît, et elle a le soutien de certaines figures intellectuelles.
Oui, puisque le parrain, en quelque sorte, de SOS Éducation s'appelle Philippe Nemo, un homme qui s'inscrit dans un courant idéologique bien identifié, décrypte encore Emmanuel Davidenkoff.
Et Philippe Nemo, il va agir comme caution, c'est un philosophe, il est prof de philo à l'École supérieure de commerce de Paris, il a pignon sur rue intellectuel, j'allais dire. Ensuite, il est proche des idées de Hayek, de Mandpèlerin, qui sont des idées très ultralibérales, l'école de Chicago, hein, qui va emporter le morceau en matière d'économie, et notamment aux États-Unis à partir des années 70-80, et Nemo, il fait le pont avec tout ça. Il a cette présence dans la vie intellectuelle qui finalement vient légitimer ce discours. Il publie en 91, on est 10 ans avant SOS Éducation, il publie un livre qui s'appelle « Pourquoi ont-ils tué Jules Ferry ?»
Ah oui, ce qui a le mérite de la clarté. Et Philippe Nemo, Benoît, qu'est-ce qu'il fait dans cette association ?
Eh bien, par exemple, dans le premier numéro de son magazine École et Liberté, publié en septembre 2004, SOS Éducation lui donne carte blanche, 27 pages où Philippe Nemo déroule sa vision du système scolaire. Une brochure que reçoit à l'époque Fanny Capel. Cette prof de lettres fait partie d'un collectif, Sauver les lettres, qui s'inquiète de l'impact négatif de certaines réformes sur l'école. Mais ce qu'elle lit dans cette brochure la sidère.
Les croyances, les valeurs, les opinions et les connaissances, tout était mis sur le même plan. Si on déroule jusqu'au bout cette idée, c'est un peu comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on va avoir des écoles où on va enseigner le créationnisme comme une théorie au même niveau que la théorie de l'évolution darwinienne. Donc il y avait derrière en plus, et ça nous l'avons senti, une idéologie aussi anti-scientifique, anti-rationaliste en tout cas, anti-lumière, et pour nous c'était pas possible.
Ouais, et puis, il y a autre chose qui lui pose problème, Benoît, ce sont les méthodes qu'emploie SOS Éducation.
Oui, des méthodes qui, parfois, ne sont pas loin de la ligne rouge, notamment lorsque l'association est montée au créneau pour défendre une certaine méthode de lecture, mais à sa manière.
Ils ont demandé aux parents de dénoncer les instituteurs qui utilisaient les manuels qui n'étaient pas de méthode syllabique pour l'apprentissage de la lecture. Alors nous, à Sauver les lettres, évidemment, on pense que la méthode syllabique, elle est meilleure que les autres. Mais on ne prétend pas l'imposer à quiconque. On pense et on continue de penser que quelle que soit la méthode finalement, du moment que le contenu est là, c'est ce qui compte. Donc appeler à la délation, c'est-à-dire à dénoncer, à repérer les instituteurs qui seraient suspects de mal enseigner, c'est redoutable. Alors là, pour le coup, nous, en tant qu'enseignants, ça nous a semblé une violence incroyable faite à la liberté, justement, d'enseigner, alors qu'eux-mêmes prétendent la défendre.
Ah, et puis, il y a un autre épisode qui a marqué les esprits.
Oui, l'association s'est insurgée et a lancé une pétition contre l'exposition sur le zizi sexuel avec le dessinateur de Titeuf, présenté à la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette à Paris. Voici ce qu'écrit en 2007 à ce sujet le délégué général de SOS Éducation, Vincent Larman. Nous avons fait lire un extrait de son message.
Nous devons nous mobiliser pour protéger nos enfants de la pieuvre du sexe cru, sans tabou et mécanique qui, après avoir envahi l'univers de nos jeunes adultes, de nos étudiants et de nos adolescents, lance ses premières tentacules sur nos petits de 9 ans. Si nous ne trouvons rien à redire à ça, que faudra-t-il pour que nous réagissions ? Qu'on leur montre des films pornographiques en maternelle ?
En 2014, l'exposition revient à la Villette et l'association récidive. Elle lance une pétition en ligne qui recueille plus de 40 000 signatures. Écoutez le souvenir qu'en a gardé une ancienne commissaire de l'exposition qui préfère rester discrète. Nous avons fait lire ses propos.
La plupart de ceux qui ont protesté n'ont pas vu l'exposition. Ils ont cherché à la discréditer en la présentant comme vulgaire, grossière, alors qu'elle ne l'était jamais. Tout était très pensé pour ne pas choquer les enfants. L'idée, c'était de donner une image positive de l'amour, d'apporter des réponses concrètes aux enfants de 9-14 ans, de combattre les stéréotypes et de défendre des valeurs d'égalité et de parité. C'était une exposition de service public.
Oui, donc elle dénonce un faux procès qu'on lui a fait. Maintenant, SOS Éducation n'est pas que dans la protestation, Benoît. Elle propose également des services aux enseignants.
Oui, et notamment des ateliers de formation. Une stratégie plutôt habile, estime Paul Devin du Syndicat National des Personnels d'Inspection de la FSU.
Beaucoup d'enseignants sont dans des situations compliquées, difficiles. On n'arrête pas de constater que la formation des enseignants diminue quantitativement, qualitativement, et que malheureusement, réforme après réforme, cette formation se restreint. Donc par exemple, ils ont lancé des ateliers de formation qui sont ouverts aux enseignants, évidemment en échange d'une adhésion pour l'association, auxquels on dit qu'on va trouver des solutions pour leurs difficultés. En gros, ils jouent sur les défaillances actuelles du système.
Il jouerait sur les difficultés que rencontrent les profs. Et sinon, politiquement, il se situe où ?
Alors, officiellement, l'association est apolitique et non partisane. Cela dit, son histoire reste liée à la droite de la droite, rappelle encore Paul Devin.
Il y a eu une époque où SOS Éducation soutenait Bruno Maigret de manière explicite. Il y a eu des soutiens très explicites à Charles Mignon, par exemple, au moment où il avait fait alliance avec l'extrême droite. Il arrive que SOS Éducation s'exprime sur des radios comme Radio Courtoisie, dont on connaît les positionnements idéologiques, et puisse y tenir des propos qui sont des propos qui ressemblent fort à ceux que l'extrême droite tient sur les sujets éducatifs. Mais en même temps, ils sont aussi capables parfois de se rapprocher d'autres droites que les droites les plus extrêmes, celle de Fillon par exemple.
Ah, SOS Éducation serait proche de François Fillon, mais qu'est-ce qui permet de dire ça ?
Eh bien, lors de la primaire de la droite en 2016, SOS Éducation a clairement appelé ses adhérents à se mobiliser en faveur du candidat Fillon. Écoutez cet extrait d'un message que nous avons fait lire de la présidente de l'association à l'époque, Claire Paulin. C'était juste avant le deuxième tour de la primaire.
Savez-vous ce qui va se passer dans nos écoles si Alain Juppé gagne la primaire de la droite et du centre ? Sa première urgence ne sera pas d'améliorer l'orthographe des élèves, la discipline dans les écoles, les manuels scolaires ou les catastrophiques programmes en cours. Sans la mobilisation de tous les sympathisants de SOS Éducation, jamais les électeurs de François Fillon ne seront assez nombreux, alors que tous les journalistes bien-pensants et tous les syndicats appellent à voter comme un seul homme pour Alain Juppé. J'espère que vous répondrez à mon appel et que vous vous mobiliserez pour remporter la décision.
Et je précise que dans son rapport, la Cour des comptes épingle justement SOS Éducation sur le fait qu'elle ait investi 90 000 euros au service d'un candidat à la présidentielle.
Et en l'occurrence donc François Fillon. Et avec l'actuel ministre de l'Éducation, ça se passe comment ?
Eh bien avant d'être nommé rue de Grenelle, Jean-Michel Blanquer avait accordé une interview à l'association, publiée sur son site, puis retirée après sa nomination. Du côté du ministère de l'Éducation, on explique que l'association a été reçue deux fois par ses services, mais qu'elle n'a jamais demandé ni agrément ni subvention, et on précise que Jean-Michel Blanquer ne partage pas les analyses de l'association et qu'il ne l'a jamais rencontré en tant que ministre.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors maintenant qu'on a vu ce qu'est SOS Éducation et quelles sont ses méthodes d'approche du milieu enseignant, eh bien voyons ce que la Cour des comptes a à lui reprocher, Benoît Colombat.
Eh bien la Cour des comptes constate une défaillance dans la gestion des dons. Elle a retrouvé notamment d'étranges retraits en espèces et des dépenses injustifiées comme des achats de billets de spectacle. Et puis en regardant à la loupe les fameux référendums et pétitions lancés par SOS Éducation, les magistrats financiers ont fait un constat assez cruel. Écoutez cet extrait que nous avons fait lire.
La Cour a constaté que, en dehors de l'encaissement des dons, l'association ne donnait que très peu de suites opérationnelles à ses publipostages. Sur les 114 publipostages envoyés sur la période contrôlée, 60 proposaient à la signature de leur destinataire un référendum national appelant à réformer l'école, mais aucun n'a fait l'objet d'une exploitation de quelque nature qu'elle soit. L'appel à dons est non pas l'objectif secondaire du publipostage, mais bien son objectif principal, sinon unique.
Ah oui, donc selon la Cour des comptes, l'association chercherait plus à faire rentrer de l'argent qu'à s'occuper d'éducation.
Oui, mais il y a aussi un problème fiscal. Il faut savoir que lorsque vous faites un don à certaines associations, eh bien vous pouvez faire retirer de vos impôts 66% de cette somme. L'association délivre donc un reçu fiscal à ses donateurs pour qu'ils bénéficient de cette déduction, sauf qu'a priori, elle n'en a plus le droit. Et du coup, le fisc lui réclame la somme d'1,5 million d'euros. D'où ce constat de la Cour des comptes.
Les dirigeants de SOS Éducation ont potentiellement compromis la pérennité de l'association, trompant de ce fait la confiance des donateurs qui en assurent la quasi-totalité des ressources.
Et ça n'est pas tout.
Oui, la Cour des comptes a aussi identifié des défaillances dans le traitement des données personnelles. 600 000 adresses sont contenues dans les fichiers de l'association. Une enquête a par ailleurs été lancée par la CNIL à ce sujet. Alors je précise que nous avons contacté à plusieurs reprises le président de SOS Éducation, Sylvain Marbach. Il n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais dans un message posté sur le site de l'association, il dénonce, je cite, un plan machiavélique de mise à mort de SOS Éducation, dont les activités sont, dit-il, légitimes et justifiées par ses missions sociales.
Secret d'info sur France Inter.
Bien, alors Benoît Colomba, après avoir vu ce que reproche la Cour des comptes à SOS Éducation, penchons-nous maintenant sur l'un de ses fondateurs, Vincent Larman, c'est son nom, parce que c'est l'inspirateur de cette structure et son parcours permet de mieux éclairer, de mieux comprendre ce qu'elle est au fond.
Oui, alors il faut d'abord préciser que Vincent Larman n'est pas l'homme d'une seule structure. Dans la foulée de SOS Éducation, il a lancé ou accompagné d'autres associations qui fonctionnent toujours avec le même schéma, comme le résume la journaliste indépendante Clémence de Blasi.
La méthode est simple, il lance une association qui correspond à une cause qui émeut en général, qui est chargée en émotions, des enfants qui passent trop de temps devant les écrans, c'est la justice qui laisse filer les malfrats. On reçoit des sollicitations, en signant ces pétitions-là, on laisse l'autorisation d'exploiter les données, ce qui ouvre la porte à la réception d'autres pétitions, d'autres causes. Et puis surtout, on est incité fortement à faire des dons pour les causes qu'on soutient.
Oui, parmi ces causes, il n'y a pas que l'éducation.
Effectivement, en 2007, Vincent Larman crée l'Institut pour la justice, un sujet qui lui tient toujours à cœur. Écoutez par exemple comment il voit le système judiciaire français. C'est un court extrait d'un échange enregistré lors d'une séance de formation avec plusieurs de ses collaborateurs en juillet 2017. Tendez bien l'oreille.
Moi, je pense que le système judiciaire français est organisé pour favoriser la délinquance en France.
Le système français est organisé pour favoriser la délinquance.
Oui, et il a le même discours vis-à-vis de l'éducation nationale. Écoutez encore cet autre extrait tiré de la même réunion.
J'avais créé une association qui s'appelle SOS Éducation. Parce que c'est une conviction absolument profonde que j'ai que l'éducation nationale est une institution organisée pour essayer de faire en sorte que les enfants deviennent le plus ignorants possible.
L'éducation nationale s'organise pour fabriquer des ignorants. Bon, bah écoutez, je vous laisse juger. Hein. Maintenant, pour comprendre ce qui anime Vincent Larman, Benoît, faut aussi évoquer un personnage qui l'a beaucoup influencé.
Oui, c'est un Américain, Bill Bonner, un spécialiste du marketing direct. Sa société Agora vend des lettres d'information financière dans le monde entier. C'est un modèle pour Vincent Larman, qui s'est inspiré de ses techniques pour se lancer, lui, dans le secteur de la santé naturelle.
La santé naturelle, c'est-à-dire ?
Eh bien, en 2012, il crée une maison d'édition, les Nouvelles publication de la santé naturelle, qu'il rebaptise ensuite Santé Nature Innovation, SNI. L'objectif est simple, envoyer de longues lettres par mail écrites de manière très percutante pour convaincre les lecteurs de s'abonner à des publications sur le bien-être ou bien acheter des programmes ou des produits comme des compléments alimentaires vendus par des structures partenaires de sa société.
Et ça marche ?
Ah oui, le résultat dépasse toutes les espérances de Vincent Larman qui décide alors d'installer sa société en Suisse, sans doute pour des raisons fiscales, mais pas seulement, comme il l'explique lui-même, à sa façon, à ses collaborateurs en 2017.
Je n'ai pas envie de faire tabasser non seulement l'administration française, mais surtout les syndicats et les délégués du personnel et toutes ces espèces de nuisibles. Et donc je me suis dit, bon, je vais partir en Suisse, on va venir voir si ça marche mieux ici. Cette espèce d'état d'esprit désastreux qui existe dans les entreprises françaises n'existe pas ici.
Oui, donc la Suisse, hein, pour le dire simplement, disons, la Suisse c'est mieux pour faire du business donc. Hein. Mais il garde tout de même un pied en France.
Hein. Oui, en 2015, le service client de SNI s'installe dans le Nord, à Wascal. Une plateforme téléphonique répond à ses clients et à ceux de ses partenaires qui vendent des compléments alimentaires. Côté pile, on propose des conseils de santé alternatifs, mais côté face, il y a parfois un léger manque de rigueur scientifique, comme l'a constaté la journaliste Clémence de Blasi.
En fait, c'est jouer avec les peurs et l'espoir de personnes qui sont malades. Ils sont toujours sur une ligne de crête, c'est-à-dire qu'ils proposent des produits qui, en soi, a priori, sont plutôt inoffensifs. On vous laisse entendre que, finalement, rien ne vaut la nature et ce qu'elle produit. Même quand vous êtes atteint du cancer, le curcuma pourrait vous faire du bien. On peut prendre, effectivement, de l'huile de coco pour lutter contre Alzheimer. A priori, ça vous fera pas de mal, mais ça fait cher l'huile de coco.
Et il y a un autre exemple du même type, un programme dont on a retrouvé la trace en 2016, « Voir sans lunettes naturellement », où on vous garantit une rééducation visuelle en 60 jours d'exercice, efficace en prévention et en guérison, dit la présentation pour le service client.
Bon, efficace, je vous laisse juge. Moi, j'aimerais bien que ça marche, ça pourrait me servir. Bon, maintenant, Benoît, vous avez pu parler plus sérieusement à des salariés qui travaillent sur cette plateforme téléphonique.
Oui, et ceux qu'on a rencontrés expliquent qu'avec le succès, les nouveautés commerciales se sont multipliées au fil des ans. Difficile de suivre la cadence, se souvient cet ancien salarié dont nous avons modifié la voix.
En 2017, par l'explosion de la demande, ils étaient dans l'obligation de se fournir avec des produits moins nobles, juste pour répondre à la demande. On se retrouvait avec des gélules, quelquefois, qui étaient envoyées et où il y avait déjà un taux d'humidité dedans qui faisait que le produit était altéré. Des boîtes étaient vendues en promotion, mais les boîtes n'étaient même pas encore produites. Et donc, les gens payaient. On se retrouvait avec une accumulation d'appels parce que les gens pensaient avoir leur produit miracle sous 2 semaines maximum. Au bout d'un mois, ils n'avaient rien. Et là, le but était vraiment d'avoir le moins d'annulations de commandes possible en leur disant, on vous mettra une boîte gratuite en plus.
Oui, une boîte gratuite, parce que c'est vrai que si tout ça se confirme, Benoît, ce système, il ne peut pas tenir très longtemps, non ?
Alors si, parce qu'à la moindre réclamation, on rembourse et on donne aussi aux salariés des éléments de langage bien précis.
Il y avait des phrases ou des mots noirs comme médicaments qui n'étaient pas employés. Il fallait bien employer complément alimentaire, il fallait bien parler de santé naturelle et pas de médication. Enfin, docteur, médication, médicaments, tout genre de choses, c'était vraiment des mots noirs. Il fallait vraiment ne pas avoir potentiellement une personne qui puisse dire « Mais attendez, vous m'avez donné un conseil médical, donc moi je me retourne vers vous parce que le conseil que vous m'avez donné n'a pas été efficace. »
Oui, donc si c'est vrai, on joue sur les mots, quoi.
Oui, cela dit, Vincent Larman assume de promouvoir les produits naturels contre les médicaments. Écoutez ce qu'il disait là-dessus à ses collaborateurs en juillet 2017.
95% des médicaments sont absolument nuisibles à la santé, mais de façon évidente. En fait, je crois fondamentalement que même il n'y a même aucun médicament qui est bon pour la santé.
Aucun médicament n'est bon pour la santé. Et l'ordre des médecins, lui, ça ne lui pose pas de problème qu'on dise ça.
Alors en fait, si. Depuis 2013, plusieurs signalements sont remontés jusqu'à lui concernant par exemple des textes où il est dit « n'en parlez pas à votre médecin » ou alors il est suggéré de renoncer à un traitement médical. Des signalements transmis à chaque fois au centre de lutte contre les criminalités numériques.
Et on va s'interrompre quelques minutes là-dessus, Benoît, mais surtout restez avec nous. Vous allez voir à suivre dans quelques instants les étonnants méthode commerciale de Vincent Larman.
The last time we were together, lately it feels like forever. And the way we talked last night, it felt like a different kind of fight. To dry my eyes, give me one more day to realize. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna miss. Give me one more year to get back on track. Give me one more life to win you back. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna miss it. My weak heart warming. try my eyes. Give me one more day to realize. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna miss. Give me one more year to get back on track. Give me one more life to win you back. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna miss it. When it's gone.
C'est acoustique et beau, quelque part entre Lou Reed et Jarvis Cocker. C'était One More Second, extrait du nouvel album solo de l'auteur-compositeur américain et chanteur par ailleurs du groupe The National. Je parle de Matt Berninger.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Alors, retour à notre enquête sur SOS Éducation et son fondateur, Vincent Larman, l'homme qui ne croyait pas aux médicaments. Vous êtes rendu compte, Benoît Colomba, que ces techniques commerciales étaient, elles aussi, parfois assez limites.
Oui, alors là, on parle de la technique du one-click.
Le one-click, alors on va préciser.
Eh bien, l'objectif, en fait, c'est de faire en sorte que le client enregistre ses coordonnées bancaires et ensuite, en cliquant une seule fois sur un lien, l'achat est validé, comme l'explique un ancien salarié de son service client dont nous avons modifié la voix.
Et le client, dès qu'il cliquait, one click, sa commande était validée. On ne s'imagine pas, en cliquant sur un lien de mail, être abonné ou être débité directement. Mais si on ne faisait que le clic, on était quand même abonné, on était débité. Pour des programmes parfois très importants.
Ah oui, donc on pouvait acheter quasiment par erreur sans s'en rendre compte. C'est légal, ça ?
Eh bien, écoutez là-dessus la réponse de Gaëtan Dupin. Il est juriste à l'UFC Que Choisir.
Le Code civil dit que le contrat n'est valablement conclu que si celui qui passe la commande peut vérifier celle-ci avant de payer. Il y a un premier clic pour choisir ses produits et un second clic pour vérifier la commande avant de payer. Et c'est pourquoi la pratique du one-click, elle est assez douteuse, parce que justement, avec cette pratique du one-click, vous n'avez pas cette vérification avant de passer la commande, vous n'avez tout simplement pas le deuxième clic qui permet de formaliser le contrat.
Et le problème, c'est que juridiquement, on est un peu dans une zone grise avec ce one-click. Alors, je précise que dans les documents internes à la société de Vincent Larman, on demande bien aujourd'hui aux salariés de respecter les bonnes pratiques commerciales et les lois.
Dont acte. Maintenant, le contenu de certains messages commerciaux envoyés aux clients potentiels laisse également assez perplexe.
Oui, alors, ce qu'il faut dire, c'est que ces messages répondent en fait à des techniques bien rodées, venues des États-Unis. C'est ce qu'on appelle le copywriting, de longues lettres où il faut accrocher l'attention du lecteur en lui laissant souvent entendre qu'on lui cache des choses. Écoutez par exemple ce message envoyé à ses lecteurs par Vincent Larman le 10 septembre 2017.
Chères lectrices, chers lecteurs, ce message est clairement le plus dangereux que j'ai jamais écrit. Mon site internet pourrait être fermé, la police pourrait débarquer, je le sais. Mais c'est si important que je prends ce risque inouï. Personne n'ose en parler ouvertement, mais vous avez le droit à la vérité sur la chimiothérapie. Vous avez le droit de savoir quand la chimio est bonne et quand elle fait plus de dégâts que de bienfaits. Vous avez le droit de savoir pourquoi beaucoup de médecins refuseraient pour eux-mêmes les traitements qu'ils conseillent aux patients.
Vous êtes comme dans une jungle où se cachent des serpents venimeux, des fauves même, qui se moquent de votre santé.
Ouais, c'est un peu la théorie du complot appliquée au traitement contre le cancer. Et Vincent Larman, lui, il en dit quoi aujourd'hui de ce genre de texte ?
Eh bien, nous lui avons envoyé une liste de questions, mais il n'a jamais répondu. En tout cas, auprès de ses collaborateurs, il assume parfaitement cette façon de faire. Il s'en est expliqué lors d'une formation en juillet 2017.
Je suis toujours confronté à des personnes qui viennent me voir, me disant c'est n'importe quoi, c'est la théorie du complot, vous exagérez, c'est du populisme, etc. Et moi, je réponds à ça, je vous emmerde, vous pouvez trouver qu'il y a un problème avec mes activités, et je ne dis absolument pas que nous sommes des saints, je ne dis absolument pas qu'on est des gens irréprochables, etc. Mais je dis que c'est notre manière de fonctionner, c'est l'ADN de notre entreprise de fonctionner de cette manière-là, de dire aux gens qu'il y a un complot, même si le complot, c'est pas vraiment un complot, etc. C'est de la forme.
Ouais, c'est de la forme, et la forme, donc, c'est pas important, c'est pas très grave. En clair, tout est bon pour faire de la com.
Oui, et pour faire rentrer de l'argent, la com, ça peut aller très loin.
C'est-à-dire ?
Eh bien, par exemple, le 12 décembre 2016, Vincent Larman n'hésite pas à rebondir sur un fait divers. Un braquage s'est produit à côté des locaux de son service client dans le Nord. Il saute alors sur l'occasion pour envoyer un message très alarmiste avec photos de voitures brûlées à ses lecteurs. En voici un extrait.
Notre service n'était pas directement visé, mais les malfrats ont mis le feu à la voiture d'un membre de notre équipe qui a été totalement détruite. Le feu s'est ensuite propagé à une seconde voiture. Nos fenêtres ont explosé, fondu. Nous faisons tout notre possible pour rétablir la situation. J'annule bien entendu mes vacances. Nous passerons Noël à Santé Nature Innovation. Je me permets toutefois de faire appel à votre soutien exceptionnel. Si vous aviez l'intention de prendre un jour un abonnement à une de nos revues, merci de hâter votre décision et de le faire aujourd'hui, en profitant de nos offres spéciales de Noël.
Ah oui, donc on a besoin de votre argent et on vous fait même pour ça une promo. Mais tout ça, Benoît, ça n'empêche pas de licencier.
Effectivement, en 2017, sa société de service client est placée en liquidation judiciaire. Elle met donc la clé sous la porte aux grandes dames de ses salariés qui ne comprennent pas comment on a pu en arriver là.
On nous a dit que nos clients en Suisse n'étaient plus satisfaits de notre prestation, qu'on n'était pas assez qualitatif, qu'on était un peu trop cher par rapport au prix du marché. Donc tous les clients d'un coup ont pris la décision que nous n'étions plus assez bons. Et donc ça a précipité la société vers une liquidation judiciaire. Donc en un mois chrono, plus personne n'était là et même les délégués du personnel n'avaient plus accès aux locaux. Donc c'était fin du bal, on baisse le rideau. Il y avait 30 salariés. Il faut en avaler des boîtes de compléments alimentaires pour avaler ça.
Et l'antenne française du service client liquidée, toutes les activités de Vincent Larman sont désormais regroupées en Suisse.
Ouais, en Suisse, où il n'est pas seul d'ailleurs à diriger ses entreprises, ça se fait en famille.
Oui, son épouse, Marie-Laure Jacquemont-Larman, qui partage les convictions de son mari sur l'éducation ou la justice, l'accompagne parfois dans ses affaires. Elle a présidé l'antenne française du service client de 2015 à 2017, avec, selon nos informations, un salaire non négligeable versé par Santé Nature Innovation. Ce qui étonne cet ancien salarié de la société parce que lui, dit-il, ne la voyait jamais.
On l'a jamais vue. Malgré que la société a dû subir une liquidation judiciaire, donc une fermeture, même ça, ça ne l'a pas amené jusque dans nos locaux. Elle n'a jamais été là, on n'a jamais vu de Marie-Laure Jacquemont, non. Non, non, on a plus vu Vincent Larman que Marie-Laure Jacquemont, on n'a plus vu son mari. Ça veut dire ce que ça veut dire.
Et je précise qu'en 2017, l'épouse de Vincent Larman a créé une école privée à Lausanne. Et selon nos informations, elle a bénéficié d'une avance de trésorerie de l'une des sociétés liées à son mari pour créer cette école. Depuis 2018, Vincent Larman a baptisé son groupe The Swiss Trust, le Trust Suisse. Quant à l'actuel président de SOS Éducation, Sylvain Marbach, après avoir travaillé dans des sociétés de Vincent Larman, il est aussi aujourd'hui à la tête d'une association qui dit vouloir protéger les enfants des dangers des écrans.
Et donc on le rappelle, Benoît, ni Vincent Larman, ni Sylvain Marbach n'ont souhaité répondre à vos questions malgré vos sollicitations. Bien, merci Benoît Colomba. Alors je précise que votre enquête, on peut la réécouter, on peut la lire, on peut la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez également nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter Investigation RF. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique, il y avait Florent Layani. Bon courage pour le confinement et à samedi prochain. Après le flash dans la librairie francophone, Emmanuel Queyrade recevra notamment Jean-Louis Fournier qui viendra parler de son ouvrage sur son amour des animaux.